Nous recevons aujourd'hui M. Toby Nathan sur les psychothérapies. Il est donc docteur ès-lettres et sciences humaines en 1983. Il est depuis 1986 professeur de psychologie clinique et pathologique à l'Université de Paris 8. Il est expert près de la Cour d'appel de Paris. Il s'intéresse donc à la psychanalyse, aux psychothérapies, à l'ethnopsychiatrie, tout en restant très concerné par les liens entre psychopathologie, pratique clinique et environnement social. Il a créé la première consultation d'ethnopsychiatrie en France en 1979 au service de psychiatrie de l'enfance et de l'adolescence de l'hôpital Avicenne qui se situe donc à Bobigny. Par ailleurs, en 1993, il a fondé le centre Georges Devreux qui est un centre universitaire d'aide psychologique aux familles migrantes au sein de l'UFR Psychologie, Pratique clinique et sociale de l'Université de Paris 8, centre qu'il a dirigé de 1993 jusqu'à l'année dernière. Ce centre, par ailleurs, est le premier lieu universitaire de clinique psychologique au sein d'une UFR ou d'un département de psychologie. Il regroupe sur le campus de l'Université à Saint-Denis, dans un même espace, une clinique spécifique, des recherches universitaires en psychopathologie et psychothérapie, et la formation d'étudiants en troisième cycle. Il a publié de nombreux ouvrages, souvent chez Odile Jacob, en particulier donc en 1994, L'influence qui guérit, en 1998, Éléments de psychothérapie, et il a publié aussi des romans, puisque son premier roman, Sarah Cabot, a été publié aux éditions Rivage en 1993. Et son dernier roman, qui s'appelle 613, a été publié en 1999. Il a fondé par ailleurs, avec Georges Devreux, en 1978, la première revue francophone d'ethnopsychiatrie, qui s'intitule tout simplement Ethnopsychiatrica, qui a paru de 1978 à 81. En 83, il a fondé la nouvelle revue d'ethnopsychiatrique, jusque donc en 98, aux éditions de La Pensée Sauvage à Grenoble. Et depuis février 2000, il dirige une nouvelle revue, Ethnopsie, les mondes contemporains de la guérison, publiée aux Empêcheurs à l'Institut, publié par l'Institut Saint-Élabo.
Merci beaucoup. Bonsoir. Je voudrais aborder donc le problème des psychothérapies. J'ai dit bien le problème des psychothérapies et peut-être que j'irai un peu plus loin, je dirais les problèmes des psychothérapies. En fait, dans ma conférence, je n'aborderai que les problèmes. Alors, peut-être après on fera la thérapie, mais pour l'instant on va faire les problèmes. Alors, d'abord évidemment il y a un problème de définition. Je parlerai des problèmes de définition, ensuite je parlerai des problèmes de conceptualisation. Comment est-ce qu'on peut conceptualiser ce type de domaine ? En essayant de ne pas être trop idéologique, c'est difficile dans ce domaine. Ensuite, je discuterai aussi des problèmes d'inclusion de ce type de pratique dans l'univers social. Et ensuite, je parlerai, pour terminer, des problèmes de formation. Et vous verrez qu'il n'y a que des problèmes, mais quand même, on peut en parler. Alors, d'abord, problème de définition. Psychothérapie. S'il fallait dire ce que c'est psychothérapie, on pourrait dire, je pense que tout le monde serait d'accord avec une définition comme celle que je vous propose là, on dirait psychothérapie désigne la thérapeutique de la personne, alors peut-être on pourrait dire de l'être plus que de la personne, parce que la personne, on ne sait pas très bien ce que c'est, par le traitement de son âme, alors là, évidemment, vous savez encore moins ce que c'est, selon des méthodes excluant le recours à la chimiothérapie. C'était la définition que je proposais il y a deux ans, en 98, à laquelle je rajouterai aujourd'hui définition, lorsque je dis excluant le recours aux chimiothérapies, je rajouterai aussi aujourd'hui et à toute forme de procédé impliquant l'action de la matière sur l'esprit. En se définissant, en s'instituant ainsi, les psychothérapies ont délimité leur domaine de manière à exclure. Je ne parle pas seulement du passé, il s'agit d'un phénomène général et permanent propre aux psychothérapies, une sorte de génie spécifique. Il est vrai que les domaines d'intérêt et de recherche, les idées, Les êtres, d'ailleurs, en général, apparaissent à la fois avec et contre. Sitôt apparus, les voilà qui cherchent des alliés, qui établissent des contrats et dans un même mouvement qui posent des anathèmes. Mais certains êtres sont chasseurs et carnivores par nature. Ils apparaissent pour combattre, pour dévorer, pour éliminer. Les psychothérapies sont de cette espèce. C'est pourquoi la plupart des autodéfinitions des psychothérapies sont en fait des définitions négatives. L'ambiguïté du terme, le flou de sa signification, en est un signe. Dans leur définition même, dans leur opposition à la matière, les psychothérapies entrent en guerre, ou en chasse, si l'on veut, contre toute autre forme de thérapeutique. En effet, si l'on regarde les thérapeutiques qui existent à travers le monde, pas seulement dans la culture scientifique, elles traitent en général les humains à partir de l'action sur une matière. Force est de constater que les psychothérapies ne peuvent se définir que de manière négative, car ce que détestent les psychothérapies, toutes les psychothérapies, c'est précisément la matière. De plus, lorsqu'il s'agit de thérapeutiques, il est absurde d'opposer l'action de la matière sur l'esprit, ce serait la chimiothérapie, à l'action de l'esprit sur la matière, qui serait la psychothérapie. La psychothérapie, elle aussi, agit sur la matière, même si c'est en la niant. C'est pour toutes ces raisons qu'il me semble plus judicieux de définir les psychothérapies par leurs antipathies et par leur tropisme. Essentiel aussi de ne pas les figer dans des définitions positives qui pourraient donner l'illusion, si vous voulez bien mettre le transparent suivant, qui pourraient donner l'illusion d'objets naturels. Alors, en fait, qu'est-ce que vous avez mis ? Bon, si vous voulez. Ouais, le mot psychothérapie, donc. Non, laissez-le une petite seconde, juste. Le mot psychothérapie convient, si on veut garder absolument le mot psychothérapie, il convient pour l'heure, essentiellement aux pays occidentaux. Il désigne une intervention thérapeutique se proclamant non armée, donc évitant la matière, comme je disais tout à l'heure, s'engageant donc par principe à ne jamais recourir à l'usage d'un certain nombre d'objets. Si vous voulez bien mettre le transparent suivant, elle proclame, les psychothérapies, qu'elles ne sont pas des chimiothérapies, c'est ça qu'elle proclame, qu'elles s'interdisent l'usage des médicaments, des drogues et des substances. Même pas boire un coup, hein, pendant la séance. Elles ne sont pas des thérapies traditionnelles. Traditionnelles, je mets entre guillemets, je ne veux pas dire que les thérapies traditionnelles sont plus anciennes ou plus liées, plus retournées vers le passé, mais ce sont des thérapies qui se proclament comme ayant trouvé leur inspiration dans une tradition. C'est pour ça qu'on les dit traditionnellement. En fait, elles sont très modernes aussi, hein. Alors, les psychothérapies proclament qu'elles ne sont pas des thérapies traditionnelles, qu'elles s'interdisent, cela va de soi, l'usage des amulettes, des fétiches ou des sacrifices animaux. Elles ne sont pas non plus des thérapies religieuses, puisqu'elles s'interdisent l'usage des prières, de l'imposition des mains ou du sentiment de communion au sein d'un groupe de fidèles. Elles ne sont pas non plus ce que j'appellerais des thérapies politiques, puisqu'elles s'interdisent en principe l'usage de l'inscription de la personne souffrant d'un désordre dans la hiérarchie d'un groupe ayant vocation d'agir dans la vie publique. Elles se refusent donc à être réellement des sortes d'initiations. Vous voyez donc que les psychothérapies, s'il fallait les définir selon leur fonctionnement, elles se définissent par les objets qu'elles n'utilisent pas. Et c'est par cette même référence à des objets absents qu'elles construisent leur vérité. J'utilise le mot « objet » dans un sens banal, objet du monde sensible, fait de matière, et dont l'existence ne doit rien à la perception ou à l'imagination d'un quelconque sujet. L'objet est donc ce contre quoi bute la perception. Permettez-moi une petite incise à cet endroit. Le problème du changement n'a pas cessé de hanter la psychanalyse et par la suite les psychothérapies. Depuis le renoncement dégoûté de Freud au miracle de la guérison, dans un texte célèbre qui s'appelle « Analyse terminée, analyse interminable », jusqu'aux critiques que je trouve assez astucieuses de Sartre sur le versant de la mauvaise foi dans « L'être et le néant ». Comment en effet être soi, être donc, et engager ce même soi dans un changement, donc dans un non-être ? Que faire de ce moment sensible de l'entre-deux, un moment de la cure, dont on sait que, par exemple, en psychanalyse, il peut occuper quelques dizaines d'années? C'est pourquoi le problème du changement en psychothérapie a oscillé entre trois grandes possibilités. Les uns pensent à l'eureka miraculeux, malheureusement amèrement contredit par les résultats réels des cures. D'autres pensent à la pédagogie, parfois délibérément assumée par certaines techniques comme l'analyse transactionnelle ou les thérapies cognitives. Et évidemment, la majorité, au moins en France, débouche sur une sorte de renoncement cynique à tout changement, cette position qu'Isabelle Stengers définit ainsi non sans humour, il y a quelques blagues d'ailleurs qui sont dans ce sens-là. Qu'est-ce que c'est que guérir en psychothérapie? C'est apprendre enfin à se découvrir incurable. Vous voyez donc que le problème du changement est un vrai problème pour la psychothérapie. « Je veux changer car je souffre », s'attend à entendre le psychothérapeute de son patient. La plupart du temps, c'est la famille, les proches du patient qui disent, qui le poussent à dire « changez-le, il nous fait souffrir ». Mais qu'est-ce que changer pour un être humain? Certes, vous serez d'accord avec moi, un humain ne peut pas changer. S'il changeait, ce serait une métamorphose. Et c'est sans doute les anciens qui ont le plus réfléchi à ce problème des métamorphoses des humains, et notamment les Grecs, en évoquant, surtout dans les récits mythiques, la possibilité de cette modification brutale. Problème fort peu repris, sauf évidemment par Kafka, vous savez, et peut-être de manière plus approfondie par Deleuze, qui a fort bien compris que changer, se métamorphoser, est une question d'alliance. Car on se métamorphose en quelque chose. Le patient des psychothérapies ne cherche pas à se métamorphoser en homme normal. Il tend vers un autre être défini par la théorie de son thérapeute. La guêpe se métamorphose-t-elle en orchidée lorsqu'elle en est fécondée? Le chat se transforme-t-il en babouin lorsqu'il partage le même virus? Je cite Deleuze. « Il y a un bloc de devenir, dit Deleuze, qui prend la guêpe et l'orchidée, mais dont aucune guêpe-orchidée ne peut descendre. Il y a un bloc de devenir qui saisit le chat et le babouin et dont un virus opère l'alliance. Ces phénomènes où l'évolution ne va pas d'un moins différencié à un plus différencié et cesse d'être une évolution filiative héréditaire pour devenir plutôt communicative ou plutôt encore contagieuse. Nous préférerions alors appeler involution cette forme d'évolution qui se fait entre hétérogènes à condition que l'on ne confonde surtout pas l'involution et la régression. Le devenir est involutif, l'involution est créatrice. » Voilà les mots-clés d'une théorie du changement en psychothérapie. On ne peut pas parler de changement, on peut parler de devenir, d'évolution entre hétérogènes qui se transmet par contagion et par création. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Alors, quelques propositions d'analyse. Il est logiquement impossible de définir les psychothérapies à partir de ce qu'elles présentent d'elles-mêmes pour se promouvoir. Du fait de la nature, pour ainsi dire, substantiellement paradoxale de ce type d'objet. Si vous voulez bien mettre le transparent suivant. Car les psychothérapies se proclament une pratique, une écoute, une expérience de l'empathie, une école de la liberté. Mais comme nous l'avons vu, une telle conception bute naturellement sur le problème du changement. Alors, si elle se proclame une pratique, nous savons que leur âme est une théorie, car c'est la pensée que cultive le thérapeute, celle qu'il habite et qu'il partage avec un groupe de pairs, celle à partir de laquelle il pense le désordre qu'on lui soumet, c'est cette pensée qui est le principal moteur de l'influence thérapeutique. Sa théorie donc. On change par la théorie du thérapeute, on ne change pas par ce qu'il nous fait. C'est la théorie du thérapeute qui dessine cet être hétérogène vers lequel tend le patient, vers cette métamorphose dont je parlais tout à l'heure, qui se soumet à la technique. Disqualifier la théorie et l'ensemble s'effondre comme un château de cartes. Nous avons vu cela se passer quelques fois. Je vous signalerai juste un exemple qui est très connu. Vous vous rappelez qu'au début, lorsque l'autisme a été décrit pour la première fois, très vite il y a eu des traitements psychanalytiques de l'autisme. Ils se sont répandus comme une traînée de poudre aux USA durant les années 60 et une partie des années 70. Ils s'appuyaient sur une attribution du symptôme autistique à une sorte d'intentionnalité inconsciente de l'enfant et sur une remise en cause du comportement des parents et notamment des mères. Les abus de ce type de théorie, qui ont en fait commencé dès que le syndrome a été décrit pour la première fois par Léo Kanner en 1943, ont surtout consisté à accuser les parents, et notamment les mères. Kanner avait même donné une description des mères d'enfants autistes. Il disait qu'elles étaient froides, inaffectives et autoritaires. Évidemment, elles n'ont pas tellement apprécié. Il faut dire que Kanner, voyant les faits de ce type dénoncé, est revenu sur ses premières déclarations, assez tôt d'ailleurs, au cours d'un congrès qui s'est tenu en 1969 en proclamant « Parents, je vous acquitte ». La psychologie cognitive, en plein essor à l'heure actuelle, interprète aujourd'hui les symptômes autistiques comme des réactions ou des adaptations à un déficit neurologique inné ou acquis. Quelles que soient les causes biologiques, génétiques, infectieuses, traumatiques, allergiques, probablement multiples, qui sont l'objet des recherches actuelles, la théorie biologique construit donc un désordre d'une toute autre nature que celui qui était naguère décrit par les psychopathologies dynamiques et tout particulièrement par la psychanalyse. Si celle-ci ne pouvait qu'incriminer le sujet, le rendre solidaire de son désordre et produire ensuite des récits qui avaient toujours pour fonction d'expliquer pourquoi il avait eu raison d'être malade, les approches biologiques actuelles ont en revanche plutôt tendance à décrire un sujet devant assumer un handicap, devant s'adapter à une singularité. Et c'est pourquoi il est indispensable que la communauté lui vienne en aide. Dans le premier cas, celui des théories psychanalytiques, nous avions un sujet enflé d'intentionnalité parfois paradoxale, un sujet à la fois presque pervers dont son entêtement a créé son propre désordre, mais aussi romantiquement mature dans sa compréhension de la négativité substantielle de l'existence. Un autiste était quelqu'un qui se voulait du mal, mais qui en même temps comprenait que le monde était mauvais. Et dans l'autre, dans l'image que produit aujourd'hui les théories cognitives, ce sujet est à la limite une sorte d'explorateur de monde inconnu, se produit par les anomalies de son système nerveux central. Et c'est donc un sujet qui, du fait des anomalies neurologiques, vit dans un monde que nous ne connaissons pas. Et il est l'explorateur de ce monde. Et nous avons à aller lui demander de venir témoigner de la nature de ce monde. Vous voyez donc que dans les deux cas, vous avez deux types de personnes totalement différentes qui sont construites par les théories. Dans un cas, évidemment, vous produisez une sorte de métamorphose et dans l'autre, une autre sorte de métamorphose. Mais il faut surtout remarquer que dans le changement de paradigme, le rôle fondamental qu'ont joué les familles réunies en association et aussi celui des associations de malades. En effet, il n'est possible d'imputer à la personne la création de son propre désordre que si, en échange, on lui propose une compensation. Par exemple, on lui propose à parvenir à plus de savoir, à plus de maturité, à participer de manière active à un mouvement d'idées ou à une parcelle de pouvoir. C'est ainsi, en général, que fonctionnent les psychothérapies psychodynamiques, on va dire. Elles disent « accepte de te penser névrosé et en échange, tu auras une part du pouvoir qui est le nôtre ». Il est compréhensible que les patients volontaires pour un traitement psychanalytique ou psychothérapique sont dans ce cas et tirent sans doute de leur espoir de parvenir à cette parcelle de pouvoir la force de se soumettre au traitement. Mais dans le cas des enfants autistes, les personnes en jeu étaient surtout les parents, les jeunes malades ne participant que très peu aux préoccupations de leur thérapeute. De plus, comme les thérapeutes les considéraient pour le moins comme de potentiels suspects, les familles sont parties chercher ailleurs. Et c'est ainsi que le paradigme psychothérapique de type psychodynamique s'est brisé en quelques années aux États-Unis. En France, ce n'est pas tout à fait exactement le même schéma. Ainsi, nous voyons que ce que proclament les psychothérapies reste toujours fort éloigné de leur véritable nature. Non, non, ça oui, vous avez mis celui-ci en avance en fait. Elles se proclament une pratique, voilà c'est là, mais la réalité de leur fonctionnement est opaque à l'observateur. On ne sait pas réellement ce qui se déroule à l'intérieur des séances. D'abord, on n'a pas ou très peu de corpus complet de séances, notamment pour les psychothérapies d'inspiration psychanalytique, puisque la psychanalyse, comme vous le savez, se déroule sans témoin. Mais surtout, l'impossibilité d'expliquer le fonctionnement réel du thérapeute. Quelles sont ses alliances, quels sont ses groupes, quelles sont ses véritables théories, cela, c'est quelque chose qui relève du secret. Elle travaille, je vous disais donc, les psychothérapies en l'absence d'un tiers critique. Déjà, la plupart du temps, il n'y a pas de tiers durant les séances, mais il n'y a pas de contre-pouvoir. On pourrait imaginer l'existence d'un collectif. Par exemple, un collectif de victimes de psychothérapie. Comme il existe des associations des victimes de sectes, par exemple. Ou même un collectif d'usagers de la psychothérapie. Comme il existe des groupes d'usagers des drogues, par exemple. Qui pourraient alors se constituer en tiers critiques et contraindre les psychothérapies à livrer leur bataille au grand jour. L'exemple de l'autisme dont je vous parlais tout à l'heure pourrait à nouveau nous servir de modèle. Elle déclare, je dis aussi, parmi les paradoxes qu'elle présente, elle déclare agir par la parole, l'écoute et la construction du sens. Mais elle se dote de toute une série de dispositions techniques dont l'effet est d'annuler la spécificité de cette parole. Car écouter quelqu'un, ça veut dire l'empêcher de parler. Parce que quand vous parlez normalement, utiliser une parole libre, c'est risquer de se perdre dans une brousse inextricable, de se faire prendre au jeu interactif. Aussi sans doute, entendre quelqu'un parler vraiment donne envie de parler à son tour et non pas d'écouter. Enfin, elles déclarent s'appuyer sur les fonctions supérieures du patient. Elles disent l'élaboration, l'insight, la compréhension. Elle présuppose pourtant l'ignorance par le patient des théories, des stratégies, des forces, des réseaux de pouvoir des thérapeutes. On vous dit tout de suite, écoutez, on va aller vers plus de liberté, mais on vous dit, s'il vous plaît, ne lisez pas de livres de psychanalyse quand vous commencez une thérapie. Alors, pourquoi comprendre s'il s'agit de cacher l'essentiel ? Ce que le thérapeute fait avec moi, son intérêt et les bénéfices qu'il en attend, les forces qui sont cachées derrière lui, sur lesquelles il s'appuie et qu'il sert de toute son énergie. On pourra me répondre, toute action technique est ainsi basée sur le secret que préserve l'homme de l'art. Pourquoi taxer la seule psychothérapie de tous ses travers ? C'est vrai. Et c'est avant toute chose les interventions médicales, d'où la psychothérapie tire pour une part ses modèles d'intervention. Mais, et c'est en cela qu'une telle attitude constitue un paradoxe, les psychothérapies s'insurgent contre le mensonge et la dissimulation auxquels elles attribuent un rôle important dans l'étiologie des désordres. Le refoulement, par exemple, dans la psychanalyse, qui est une sorte de mensonge à soi-même, les secrets de famille dans les thérapies familiales, qui est une sorte de mensonge familial, les schèmes négatifs dans les thérapies cognitives, elles tentent de promouvoir une relation corrective, corrective précisément parce que basée sur la vérité. Et pourtant, leur organisation est incompatible avec la vérité politique et sociale du fonctionnement réel des thérapeutes. De ce point de vue, les chimiothérapies sont beaucoup plus honnêtes, puisque tout ce que sait le médecin peut être connu du malade. Autrement dit, un médecin malade est soumis exactement aux mêmes forces qu'un malade non-médecin. Alors que ce n'est pas évidemment le cas des psychothérapies. Conséquence, vous avez vu que ce n'est pas facile de rentrer et de comprendre ce que sont ces objets. Pour comprendre ce que sont les psychothérapies, il faudrait les désarticuler, rendre inopérants leurs mécanismes de voile, nous rendre insensibles à leur effort de nous convaincre, mais surtout se doter de quelques repères fiables. Je proposerais, pour entrer dans le sujet, d'envisager les thérapies comme ce que Deleuze et Guattari appellent des machines, c'est-à-dire de les définir à partir de leur travail. Pour les psychothérapies, le travail des psychothérapies, c'est de produire des rapprochements impensables, des lignes insoupçonnées. Je cite Deleuze, « Machine, ce n'est ni mécanique ni organique. La machine est un ensemble de voisinages entre termes hétérogènes indépendants. Ce qui définit un agencement machinique, c'est le déplacement d'un centre de gravité sur une ligne abstraite. Alors, quelles sont les machines thérapeutiques et à quelles machines devrons-nous nous intéresser, nous qui aujourd'hui nous engageons dans un processus de compréhension des psychothérapies ? Je vais vous donner trois exemples de thérapie et pour penser les choses à partir de là. Le premier, dans certains pays du Maghreb, Après tout, peut-être qu'on le passe, non ? Oui, celui-là. Non, pas celui-là. Celui-là, il viendra après. Oui, celui-là. Dans certains pays du Maghreb, mais aussi dans l'immigration musulmane en France, on peut rencontrer des désordres interprétés comme les conséquences de l'intervention d'un djinn. Ces désordres, par exemple, qu'est-ce que ça peut être ? Des enfants morts en bas âge peuvent avoir été pris par les djinns. Nous, on voit qu'ils sont morts, mais en fait, ils ne sont pas morts, ils ont été pris par les djinns. Échangés contre des enfants de djinns, par exemple. Des femmes qui se refusent à la sexualité, à la conjugalité, à l'échange social avec leurs belles-sœurs, avec leurs amis. Des femmes qui refusent de se nourrir, qui restent longtemps solitaires, silencieuses, qui font des crises. Celles-là peuvent être, à leur insu, des épouses de djinns. Des hommes qui font d'étranges rencontres en pleine nuit, qui croisent la mort sans s'en apercevoir. Des hommes étranges, parfois, qui ont l'air de tout ce qu'ils ne sont pas, par exemple qui ont l'air d'animaux ou de femmes aussi, peuvent subir la conséquence de la rencontre avec une femme djinn. Des événements énigmatiques aussi qui surviennent, par exemple dans une maison, des bruits de pierres sur le toit, des incendies inexplicables, des traces de boue laissées en pleine nuit sur les tapis ou dans un lieu public, des voix, des déplacements d'objets, peuvent être aussi la conséquence de l'intervention de ces invisibles non-humains que, en arabe, on appelle les djinns. Soigner ce type de malade, entreprendre de réparer ces désordres, c'est nécessairement établir une relation avec le djinn. Dans ce cas, qu'est-ce que la thérapie ? La réponse est sans hésitation, c'est l'entreprise qui permet à l'humain de prendre la fuite vers d'autres ordres. Une thérapie n'est jamais l'entreprise qui permet de connaître l'humain, de l'identifier, de le cerner. Au contraire, c'est l'entreprise qui précisément lui permet de rester dans le flou quant à sa propre nature d'humain, mais l'expédie dans des aventures impossibles, dans des identifications impensables, dans des alliances contre nature. C'est ça une thérapie. Nous devons en conclure que djinn est une machine, au sens de Deleuze et Guattari, dont je vous parlais tout à l'heure, qui pousse une société d'humains à une sorte de noce, pour reprendre toujours les termes de Deleuze, avec une certaine espèce d'étranger que nous ne connaissons pas bien, nous, ici en France, ou que nous ne connaissons plus peut-être, mais parce que ce sont des vrais étrangers, pas des semblables, mais des autres, des radicalement différents. On peut supposer que la conséquence de telles noces est une identification de ces étrangers, une identification des étrangers, non pas une identification aux étrangers, une connaissance approfondie de leur nature, de leur habitus, de leur mode d'être et d'agir. Mais il faut remarquer que ces étrangers constituent des sociétés d'invisibles. Si on veut identifier ces invisibles, s'ils veulent les identifier, donc les humains ne peuvent se fier à leur sens puisqu'ils ne les voient pas, puisqu'ils ne les entendent pas, puisqu'ils ne les sentent pas. Ils n'ont donc que deux modes de connaissance de ces invisibles non-humains, la lecture des textes anciens où ils sont mentionnés, mais dont on peut penser qu'ils ont été écrits à la suite de rencontres avec de tels êtres, et, ce qui nous intéresse en premier lieu ici, les maladies actuelles des humains. Alors, à ce moment-là, ils sont obligés de se dire « Heureusement qu'il y a des malades, parce que comme ça nous pouvons connaître les djinns ». Ils ne disent pas ça, bien entendu, parce qu'ils sont tristes que leurs parents soient malades. Mais au fond, si on regarde les choses d'un point de vue méthodologique, c'est là que nous arrivons. Comment reconnaître ces lieux qui sont de véritables thérapies ? J'ai quelques trucs. Dans l'espace créé par ce type de machine thérapeutique, on peut faire de l'humour, mais pas de l'ironie. De la provocation, mais pas de l'injure. On peut éprouver de la joie, cette joie si loin du sentiment océanique de tout comprendre, de tout englober, de la joie donc, mais certainement pas de la sérénité. Essayons maintenant de définir une machine que vous connaissez, je pense, parfaitement bien, la machine constituée par la chimiothérapie des psychotropes. La chimiothérapie, c'est avant tout des êtres, les molécules, dont la liste s'allonge tous les jours, et pour la création desquels l'inventivité, la créativité des chercheurs est indispensable. Des lieux aussi, les laboratoires de recherche de l'industrie pharmaceutique, où les secrets de fabrication sont gardés comme des secrets militaires. Des méthodes de fabrication, essentiellement cette notion de laboratoire de double insu, apparue après-guerre, dont le succès s'est répandu à tous les secteurs de la société, et je vous conseille de ce point de vue de lire le livre de Philippe Pignard qui s'appelle « La puissance des psychotropes ». Des objets aussi, les médicaments, qui produisent des profits gigantesques et nécessitent un réaménagement de toute la société. Des usines, des réseaux de distribution, des officines de pharmacie, des activités de représentants, des cotations en bourse. Ensuite, des professions qui sont entièrement reconstruites à partir de ces objets, par l'existence de cette machine. Les neurologues n'ont plus le même métier depuis l'apparition de la chimiothérapie. Les psychiatres non plus, les psychologues non plus, mais aussi les infirmiers, les assistantes sociales. Tout le monde a changé par l'introduction de ces objets. Plus même, ce qui constituait jusqu'alors le noyau de la psychiatrie, cette perle que la psychiatrie avait mis 100 ans à bâtir pierre après pierre, sa nosographie, est en train de voler en éclats, d'être totalement déstructurée par l'irruption de ces nouveaux êtres. Dans un même mouvement, cette machine, la chimiothérapie, redéfinit, elle définit donc les êtres, les professions, mais elle redéfinit aussi le poison, la drogue, et elle distribue des certificats de licitité. C'est un barbarisme, mais vous comprenez ce que ça veut dire. Aux substances, à l'alcool, au tabac, au haschich, mais aussi au cat, au thé, aux noix de cola, au LSD, elle redistribue toutes les cartes. Et quels sont les ordres que cette machine met en présence? Puisqu'on disait une thérapeutique, c'est quoi? C'est quelque chose qui envoie l'humain dans un autre ordre, l'expédie dans une sorte d'aventure ontologique, on va dire. Quels sont les ordres que cette machine met en présence? Si l'on reprend les formulations précédentes, on pourrait dire elle expédie l'humain dans un devenir chimie. C'est-à-dire, elle dit « Et si nous n'étions faits que de molécules ?» Et là, quel vertige! Un peu comme, peut-être même à son insu, peut-être même que c'est à la suite de ça, un peu comme autrefois le chamanisme expédiait l'humain hors de son monde jusqu'à le faire devenir une plante. Elle lui fournit ce sentiment excitant de vertige qui pousse le sujet à la chose, à son noyau même. Dans cette perspective, les usagers des drogues, il faudrait les revoir leurs problématiques. Ce ne seraient pas des toxicomanes, mais des chercheurs, au fond. Eux, qui font cette expérience un peu plus que la machine thérapeutique, l'un des rouages de cette machine. Ce type de machine, par son efficacité, tend à se répandre. Il est prévisible qu'elle viendra chercher les humains, même en bonne santé, et pas seulement les malades. Et elle viendra les chercher au plus profond, dans leur humeur, par exemple, comme a commencé à le faire le Prozac et les nouveaux antidépresseurs. Dans leur sexualité, comme vous le savez, le Viagra, et bientôt le Viagra pour femmes. Leur métabolisme aussi, leur longévité, elle vient les chercher là, et elle dit « Et si vous n'étiez qu'une accumulation, une agglomération de molécules ?» Et ça, c'est un vertige, c'est une aventure. Et cette aventure, évidemment, puisqu'il y a cette aventure, alors c'est une thérapeutique. Que pouvons-nous dire maintenant que nous avons vu deux types de machines thérapeutiques bien huilées? Que pouvons-nous dire des psychothérapies? Est-ce que ce type de technique participe des machines au sens où nous l'avons défini jusque-là? Les psychothérapies, c'est quoi? C'est des réseaux de professionnels initiés dans le secret, un peu à la manière des sociétés secrètes ou des groupuscules politiques. Parce que les psychothérapies sont bolcheviques par nature, hein. Non, bolchevique au sens vrai du mot, hein, c'est-à-dire que c'est une minorité d'éclairés qui viennent éclairer une majorité qui ne sait rien, quoi. Ce sont des systèmes qui articulent thérapie, formation et initiation, engendrant souvent des groupes dans lesquels on dépend de son supérieur, à la fois pour sa vie personnelle et pour sa carrière. Ce sont des fragiles théories de l'âme qui viennent prendre le relais des théories religieuses tout en les disqualifiant. Ces théories de l'âme durent aussi longtemps qu'un être stabilisé n'est pas venu les déloger. Un être stabilisé, ce sont les êtres qu'on trouve, par exemple, justement, que la chimiothérapie produit. Elle produit un être stabilisé, paf, il déloge. Par exemple, on a quelques cas. Vous savez, vous avez entendu parler récemment de la maladie de la vache folle, je crois. Eh bien, cette maladie, moi je l'ai connue il y a très longtemps, il y a une trentaine d'années en fait, hein, où jeune thérapeute, j'arrivais dans un dispensaire et où moi j'étais plein d'illusions et de désirs militants, comme tout bon thérapeute. Et je disais, pourquoi faudrait-il soigner que les jeunes? Je veux aussi soigner les vieux. Et donc j'avais commencé à faire des thérapies de personnes âgées et... Jusqu'au jour où je soignais une femme et puis je disais « elle va mieux, elle va mieux, oh bah oui, elle va mieux depuis que je la vois ». Et puis, mon médecin-chef de l'époque était venu me dire, écoute, ça m'étonnerait qu'elle aille mieux parce qu'elle a une maladie de Creutzfeldt-Jakob et que c'est un virus à développement lent et que ce que tu vois sur elle, c'est pas de la psychologie. Toc, il y a eu un être stabilisé, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui était venu déloger ma théorie de l'âme. Vous voyez combien elles sont fragiles, ces théories de l'âme. Hein, c'est quoi encore les psychothérapies? Des sortes de trucs, des tours, permettant d'exercer l'ironie sur autrui. Par exemple, l'interprétation des rêves. Si vous savez interpréter les rêves, alors là, vous êtes un homme redoutable dans un dîner. L'interprétation des lapsus. La recherche des secrets de famille. L'interprétation des tests projectifs. C'est aussi des êtres originaires, très semblables au sein des religions chrétiennes et musulmanes, qui définissent une origine, un modèle donc de comportement et dont l'aura imprègne tous les membres. La liste en est longue. Freud, Jung, Bowlby, Anna Freud, Klein, Lacan, Cohut, Winnicott, Pavlov, Wolpe, Beck, Ellis, Moreno, Rogers, Egan, Maslow. Je continue pas parce que j'ai pas tout noté. Alors, des méthodes aussi. Là, ça devient plus sérieux, ça devient un peu plus dur. Des méthodes, par exemple, association d'idées, analyse des résistances, désensibilisation, rééducation, expression, émotion, empathie. Des méthodes, là, c'est le noyau dur. Des dispositifs aussi. Divan-fauteuil, famille sur trois générations plus glace sans teint, groupe d'expression plus papier-crayon-question, etc. À la lecture de cette liste, on voit bien comment les psychothérapies diffèrent, sont à la fois une machine thérapeutique et pourtant diffèrent des machines thérapeutiques décrites précédemment, par exemple pour les djinns et pour les molécules. On repère là au premier coup d'œil, d'abord l'absence d'être singulier. Il n'y a pas de djinns justement, il n'y a pas de molécules. Et d'objets nécessairement rattachés à ces êtres. Parce qu'on soigne les djinns avec des objets, avec des amulettes. On soigne les molécules avec des molécules, justement, avec des médicaments. Aucun être nouveau n'est venu peupler notre monde du fait de leur existence. Aucun nouvel ordre n'a été fabriqué. Les psychothérapies ont engendré des trucs, des méthodes, des théories, des dispositifs, des saints, mais elles se sont révélées incapables de produire des nouveaux êtres. On aurait pu croire au tout début de la psychanalyse que l'inconscient pouvait en être un. Et les tentatives de capture par toutes sortes de mouvements de l'inconscient, par exemple par les mouvements littéraires, le dadaïsme, le surréalisme, par des mouvements spirites, auraient pu laisser penser qu'il se livrait une bataille au sujet de la propriété de ce nouvel être qu'on appelait l'inconscient. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on l'appelait plutôt le subconscient. Mais l'histoire des psychothérapies s'est orientée d'une toute autre manière. Elles ont produit toujours plus de réseaux, toujours plus de saints, toujours plus de méthodes, mais n'ont jamais tenté de remplacer l'être ou l'objet avorté lors de leur propre naissance. Au contraire, elles se sont insurgées contre les êtres, elles ont attaqué les dieux, elles ont attaqué les esprits, les démons, les molécules, les psychotropes, elles se sont gossées des rituels et des prescriptions et ont rallié tant et plus de membres. Mais il ne faut pas s'y tromper, hein. Le génie des psychothérapies réside justement dans leur refus des êtres et des objets. Par ce moyen, elles recrutent plus largement. Mais ne parvenant pas à extirper l'humain de sa condition, à le propulser vers un autre ordre, elles diminuent leur efficacité. Tel est le constat. Qu'est-ce qu'on peut en tirer maintenant? Quelles propositions on peut en faire pour l'avenir et pour la profession? Ça va, je vais pas trop vite? Au fur et à mesure de leur développement, les psychothérapies sont progressivement devenues propriété des psychologues, et tout particulièrement en France. Quoi qu'ils aient longtemps cherché à prendre possession de ce domaine, il n'est pas certain qu'en y parvenant, lors des deux dernières décennies, ils aient fait une très bonne affaire. Ils héritent d'une situation de crise où les remises en cause fusent de toutes parts. D'abord, elles proviennent des psychiatres, prescripteurs de psychotropes et de plus en plus nombreux et de plus en plus prescripteurs. Les biologistes tentent de reprendre l'hégémonie des traitements en disqualifiant fragment par fragment les propositions théoriques des psychothérapies. Et vous avez vu que quand elles le font, à ce moment-là, tout s'effondre. Chaque nouvel être, par exemple, la trisomie partielle du chromosome 5, ça c'est un être fabuleux, hein, parce que si cet être, on démontre son existence, d'où provient la schizophrénie? De la trisomie partielle du chromosome 5. Alors à ce moment-là, je peux vous dire que tout un pan de la psychothérapie s'effondre. Hein. Ou la sérotonine, Chaque nouvel objet, molécule ou instrument d'investigation comme le scanner ou l'IRM viennent entamer un corpus théorique qui, par ailleurs, n'est plus en période de régénération dynamique. Donc ça, c'est un problème grave. Et c'est juste à ce moment-là que nous, pauvres psychologues, on se saisit du domaine. Alors, les psychiatres, eux-mêmes menacés dans leur profession, du moins en France, puisqu'il y a toute une politique de réduction du nombre des psychiatres en France, commencent à s'inquiéter de la pression que le nombre des psychothérapeutes fait peser sur eux. D'autre part, les critiques sociales de mouvements agissant à l'encontre des intérêts de l'individu, comme les sectes ou les mouvements extrémistes, politiques ou religieux, commencent à entamer le crédit que les psychothérapies avaient jusqu'alors largement conquis auprès du public. En effet, la plupart des sectes offrent à leurs membres des sortes de psychothérapies, parfois même directement inspirées des corpus existants. Un exemple, vous le savez, la dialectique de Ron Hubbard, à l'origine du groupe Scientologie, n'est ni plus ni moins que de la psychothérapie intensive plus un galvanomètre. En d'autres mots, une sorte d'hybride entre une psychanalyse années 50 et de la science-fiction, en fait. Certaines sectes pratiquent directement de la psychanalyse, comme par exemple ce groupe dirigé par une psychanalyste qui a été décrit en Belgique, ça ne doit pas être loin de chez vous, là, qui soignait et légiférait à partir de l'interprétation des rêves. Les sectes d'inspiration extrême orientale aussi proposent d'autres méthodes qui, elles aussi, sont utilisées par des psychothérapies instituées, comme la méditation, la relaxation ou le yoga. Le fait que la critique sociale commence à se saisir du problème des sectes, évidemment, commence à porter une ombre sur les pratiques des psychothérapies. Par ailleurs, il commence à se constituer des associations d'usagers qui se regroupent pour obtenir réparation d'abus, abus certains commis par des psychothérapeutes peu scrupuleux, mais qui pourraient, si elles prenaient de l'importance, intervenir sur la scène publique en exigeant une législation de la profession. Et les psychanalystes, enfin, sont aussi un problème pour les psychothérapies, car fort de l'héritage de Freud, dont ils revendiquent la seule compréhension légitime, ils s'inquiètent du développement quelque peu anarchique des psychothérapies. Je vous dis en passant qu'il y en a, on en a dénombré à peu près 400 sortes. Enfin, c'est des grandes familles, hein, mais disons 400 différentes, 400 écoles, 400 types d'écoles, quoi. Et les psychanalystes veulent marquer leurs différences. Vous ne nous mélangez pas avec ce genre de choses, disent-ils. C'est peine perdue, car il n'est aucune différence de nature entre la psychanalyse et les autres psychothérapies. Quelle est la situation des psychothérapies à l'aube de ce millénaire? Durant ces deux dernières décennies, nous avons assisté à une évolution considérable des thérapeutiques dans le champ de la santé mentale. Évolution qui a transfiguré le paysage. Découverte de nouveaux psychotropes toujours plus actifs, toujours mieux tolérés, tant pour les pathologies psychotiques que dépressives. Développement impressionnant de la recherche de nouvelles molécules, mise en place de protocoles d'expérimentation sophistiqués. Pourtant, malgré tout ce déploiement de recherche, aucune découverte biologique définitive n'est venue bouleverser la perception des troubles mentaux. Pour l'instant, aucun nouvel être, virus, gène ou concept n'a pu stabiliser le champ en mettant tous les chercheurs d'accord. Mais peut-être ça va arriver. Peut-être c'est tout près d'arriver. Le panorama de la psychiatrie biologique est aujourd'hui le suivant. Plus de médicaments, plus d'efficacité, plus de confort, mais toujours pas d'affirmation décisive sur l'étiologie des désordres. Chimie et psychologie sont aujourd'hui intriquées au plus profond. C'est ça la vérité. Car il faut dire que ce sur quoi travaillent les chimistes, c'est précisément et uniquement sur des concepts psychologiques. Comment évaluer une molécule? À l'aide d'échelles, de questionnaires, de tests, d'entretiens mis au point par la recherche psychologique. Plus la psychiatrie devient biologique, et plus elle devient paradoxalement dépendante de la psychologie, ou plutôt du développement des outils fournis par la psychologie. Technicité sans concept propre du côté de la psychiatrie biologique, mais technicité sans concept propre aussi du côté de la psychologie expérimentale qui, il faut le bien dire, se satisfait souvent d'une coquille de rigueur, d'une sorte de correctness méthodologique en place d'une véritable construction du concept. Les développements récents de la psychiatrie biologique, les relatifs succès des médicaments, c'est vrai, hein, un changement d'état d'esprit aussi, ont eu tendance à éloigner les psychiatres de la pratique de la psychanalyse et des psychothérapies, techniques auxquelles ils recouraient plus volontiers il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Malgré les discours simplistes sur l'opposition substantielle de la chimiothérapie et des psychothérapies, il faut garder à l'esprit qu'il n'y aurait aucun développement des chimiothérapies sans le développement simultané des concepts psychologiques. À tel point qu'on pourrait presque dire que, selon le mot de mon ami Philippe Pignard, les chimiothérapies sont en fait des psychothérapies en comprimé. C'est ce que je vous ai mis sur le tableau. Dans le même temps, on a vu se développer considérablement une nouvelle profession, celle de psychologue clinicien, avec les orientations vers la psychothérapie que l'on donne à ce type d'enseignement universitaire en France. Durant ces mêmes 20 dernières années, ces nouveaux professionnels de la santé mentale sont arrivés en nombre sur le marché avec l'objectif de pratiquer la psychothérapie, en institution ou de plus en plus en cabinet privé. Aujourd'hui, le nombre commence même à pencher en leur faveur, si bien que lorsque vous rencontrez un psychothérapeute, il y a plus de chances qu'il soit psychologue que psychiatre. Or, une certaine tradition, encore très vivace en France, a imposé un mode de formation à la psychothérapie assez singulier, si l'on y réfléchit. En règle générale, un psychothérapeute est un professionnel, donc médecin ou psychologue dans la majorité des cas, qui, après ses études universitaires, s'est engagé dans ce que l'on a coutume de nommer un travail personnel. Entendez qu'il s'est soumis auprès d'un membre autorisé de l'école de psychothérapie à laquelle il souhaite adhérer, à la technique qu'il souhaite apprendre. Il est donc, de ce point de vue, un peu à l'image de certains thérapeutes traditionnels, chaman amérindien ou spécialiste africain des trans, à la fois un médecin et un malade. Médecin parce qu'il aurait été un jour malade. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que quand il est vraiment malade, on ne l'accepte pas dans les écoles. Hein. Il est vrai qu'il reçoit également un enseignement théorique et, dit-on, technique, ce dernier la plupart du temps sous forme de supervision. C'est au sujet de cette formation que surgissent les problèmes. En France, toutes les écoles de psychothérapie, écoles de psychanalyse, il en existe au moins une vingtaine, je crois que beaucoup plus encore, mais au moins une vingtaine de grosses écoles de psychothérapie, psychothérapie humaniste, gestalt, hypnose, bioénergie, thérapie familiale, etc. Toutes ces écoles sont des institutions privées dont le fonctionnement réel est rendu particulièrement opaque du fait que les formateurs sont aussi les thérapeutes ou les anciens thérapeutes de leurs élèves. On devine les problèmes de pouvoir, de légitimité, les demandes de reconnaissance, les ruptures et parfois les véritables psychodrames que peut engendrer une telle organisation de la formation. Or, à la différence des professions de médecin et maintenant de psychologue, la profession de psychothérapeute n'est pas protégée. Quiconque pourrait en principe s'improviser psychothérapeute, mais il ne faut pas exagérer, c'est tout de même extrêmement rare. Le véritable problème n'est pas là. Il vient du fait que n'importe quel groupement peut en l'état actuel s'autoproclamer organisme de formation à la psychothérapie. Et ça, c'est beaucoup plus fréquent. Le danger est d'autant plus inquiétant que, comme je vous le disais tout à l'heure, l'une des accroches les plus courantes des mouvements de type sectaire, c'est précisément la proposition de psychothérapie et une sorte de promesse, plus ou moins implicite, d'initiation des membres. On parle aujourd'hui de légiférer au sujet de la profession de psychothérapeute. Vous savez que ça a été discuté encore à l'Assemblée. Plusieurs pays européens l'ont déjà fait, l'Autriche, l'Italie, ou sont en train de le faire. Il n'est pas évident qu'une législation fera disparaître les thérapies sauvages, qui sont aussi l'expression d'une nécessaire régulation, une sorte de poumon venant impulser les mouvements sociaux au sein d'organismes qui, comme vous l'avez vu, ont une tendance spontanée à la clôture et au secret. Quoi qu'il en soit, dans la perspective d'une reconnaissance légale des formations, chaque école de psychothérapie prétend que les autorités devraient valider son propre enseignement. Ça va de soi. En toute logique, il faudrait que les universités, et plus particulièrement les départements de psychologie, en tant que plus grands pourvoyeurs de psychothérapeutes, puisque je vous le disais tout à l'heure, la majorité des psychothérapeutes sont des psychologues, en fait, et donc formés à l'université, soient impliqués dans les choix que feront les autorités. Quoiqu'à l'heure actuelle, il n'existe pas de formation universitaire spécifique, je suis de ceux qui pensent que l'université offre les garanties que ne présentent pas les écoles privées. Là, vous pouvez le mettre. Multiplicité des choix théoriques, ouverture à la recherche et aux innovations, habitude des validations les moins subjectives. Une formation universitaire à la psychothérapie permettrait par exemple que les futurs thérapeutes acquièrent plusieurs techniques de psychothérapie et ne restent pas, comme c'est si souvent le cas aujourd'hui, des adeptes inconditionnels, des dévots définitivement fascinés par la technique dans laquelle ils ont été un jour initiés. On pourrait par exemple facilement imaginer un troisième cycle, une sorte de doctorat professionnel, que dans le jargon universitaire on appelle un doctorat d'exercice, de psychologue, psychothérapeute, ce qui permettrait d'état d'avantage. Ce serait là un développement naturel, tenant compte tant de l'évolution récente des thérapeutiques en santé mentale, où la psychologie n'a pas su prendre en France la place légitime qui est la sienne, que de l'apparition ces dernières années d'associations d'usagers, pour l'instant surtout aux États-Unis, mais qui commencent en France, qui viennent interroger les effets des thérapeutiques à moyen terme, mais aussi après 20 années d'administration. Ces partenaires sont des partenaires fondamentaux. Par exemple, aujourd'hui aux États-Unis, on observe que 20 ans de neuroleptique, par exemple, créent des lésions au cerveau irréversibles. Alors vous avez des gens qui sont psychotiques, qui relèvent donc de thérapies de type neuroleptique, et qui se baladent avec un papier dans la poche où ils disent « Si je fais une crise psychotique, s'il vous plaît, attachez-moi, mais ne me donnez pas de neuroleptique. Je demande qu'on m'attache. » Et ils font partie d'associations. Donc, ça devient des nouveaux partenaires, et ces partenaires, il va falloir discuter avec eux. L'entrée en scène de ces nouveaux partenaires a progressivement conduit les professionnels et les usagers à penser la thérapie en incluant le débat contradictoire, avantages et inconvénients des chimiothérapies, à 1 an, à 5 ans, à 20 ans, avantages et inconvénients de telle ou telle psychothérapie, introduction des évaluations et des problèmes théoriques qu'elle pose. Mais me dira-t-on, quelles sont les propositions concrètes que l'on pourrait faire, au moins pour parer au plus pressé ? Le plus pressé étant, à mes yeux, de poursuivre l'entreprise, de tenter de mettre au monde de nouveaux êtres, de tenter de fabriquer de nouveaux objets. Ma réponse est simple, il est urgent d'instituer un lieu universitaire où l'on enseignerait la pratique, un lieu qui ne serait ni un couvent monothéiste, ni une cellule de parti politique. Pour cela, à mon sens, ce lieu devrait être multiple. On y enseignerait le plus grand nombre des psychothérapies et on proposerait les différentes techniques aux patients. De la cohabitation nécessaire des professionnels, d'une vie intellectuelle nécessairement partagée, j'attendrai deux modifications majeures de la situation actuelle. Offrant une palette de thérapies ainsi que l'assurance que l'on cherchera collégialement la thérapie la mieux adaptée à leur cas, on peut espérer qu'on évitera aux patients et aux jeunes candidats d'entrer dans des conflits d'école et dans ces violents mécanismes d'affiliation et de rejet. On pourra également éviter les interminables traitements, puisque le processus en cours serait systématiquement soumis à évaluation. On pourrait dire, à 5 ans, à 3 ans, à 6 mois peut-être, cette thérapie n'est pas efficace. Transmettant un certain nombre de techniques psychothérapiques, je nourris l'espoir que passera également l'idée qu'une psychothérapie, c'est avant toute chose une technique. Une technique sans doute complexe et subtile, mais une technique est donc susceptible d'être enseignée et d'être évaluée. De ces conditions pourraient éventuellement naître de nouveaux êtres, de nouveaux objets, car la science n'a pas pour vocation de décrire le monde, non, mais de permettre de l'enrichir par l'apparition d'êtres nouveaux. Je vous remercie de votre patience.
Est-ce que vous pourriez dire deux mots de la psychogénéalogie, s'il vous plaît ?
Qui est-ce qui a parlé ? Pourquoi plus particulièrement de la psychogénéalogie ?
C'est mon cousin de Paris qui m'a demandé de poser la question.
Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de la psychogénéalogie ? C'est une technique. Je vous ai dit, la psychothérapie a pour vocation d'engendrer...
Qu'en pensez-vous de cette technique, au moins ?
Je pense rien du tout. Rien d'aucune technique. Je pense que ce sont des techniques et qu'elles doivent être prises comme des techniques, pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des techniques, et surtout pas des philosophies ni des vérités sur l'existence. La généalogie, c'est une technique amusante qui, en plus, peut mêler de la technologie moderne. Parce que ça, c'est super bien la psychogénéalogie, parce que maintenant, on a des scanners, et qu'avec les scanners, on peut prendre les vieilles photos de famille et puis les scanner, puis les changer, puis les mettre en couleur, puis les combiner, puis faire des tableaux, etc. Et je trouve que c'est super bien, mais que sans les scanners, je pense que la psychogénéalogie, c'est moins bien. Voilà, c'est ça que je peux vous dire. C'est moderne, c'est sympa, et c'est rigolo. Et souvent, les gens qui font ça sont amusants et dynamiques. Voilà, c'est ça que je peux vous dire. Mais si vous voulez me faire dire que la généalogie est quelque chose d'important dans la constitution des troubles ou des désordres psychologiques, j'y crois absolument pas. Je ne crois à aucune des théories que proposent les psychothérapies. Je crois que vous l'avez compris, ça.
Bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que vous pourriez préciser le concept quand vous avez parlé de stabilisation par rapport à l'exemple que vous avez donné d'un patient qui souffrait de la maladie Creutzfeldt-Jakob et de votre intervention ? Je n'ai pas très bien compris à ce moment-là.
Non, j'étais un peu vite là-dessus. C'est-à-dire que je voulais vous sensibiliser sur le fait que les psychothérapies sont extrêmement dépendantes des théories. Elles se présentent comme de la parole et de la philosophie, en vérité c'est de la théorie, hein. Alors, par exemple, on vous dit, qu'est-ce que vous venez faire en psychothérapie ? On vous dit, vous venez parler, on va vous écouter, on va vous comprendre, etc. Mais quand on vous dit ça, vous ne comprenez rien. Pourquoi ? Parce que vous avez une femme, vous avez un mari, je ne sais pas, ça dépend, hein, bien sûr. Vous avez une tante, un oncle, des grands-parents, vous avez une concierge, vous avez des voisins de palier. Vous parlez et on vous comprend. Pourquoi est-ce que vous auriez besoin d'un endroit où on vous parle et on vous comprend ? C'est pas vrai que c'est comme ça. C'est qu'il y a une théorie derrière. Et la théorie, c'est, par exemple, eh bien, on va sortir ce que vous vous cachez à vous-même, par exemple. Cette théorie, on ne va pas vous le dire, parce qu'on ne peut pas vous dire « venez dire ce que vous vous cachez à vous-même ». Vous comprenez qu'il y a un paradoxe dans cette affaire, hein. Alors, ce sont ces théories qui sont l'âme des psychothérapies. Maintenant, ces théories, elles sont parfois, elles se précisent à certains moments. On dit, par exemple, la dépression, vous êtes déprimé. Alors, on dit, c'est parce que ça a rapport, peut-être, avec des phénomènes qui ressemblent au deuil. Au deuil de quoi ? Au deuil. Mais attends, le deuil, moi, je sais ce que c'est, le deuil. C'est s'habiller en noir, c'est, je sais pas, on le fait plus maintenant. Mettre un morceau de feutre, de crêpe, oui, pardon. Mettre un morceau de crêpe, enfin, on fait plus ces choses-là. C'est ça, le deuil ? Non, c'est pas ça, le deuil. Le deuil, c'est perdre quelque chose à quoi on tenait. Ah bon ? Quoi, par exemple ? Je sais pas. Par exemple, j'ai perdu la possibilité de dire que j'aime le football. C'est un deuil ? Oui, c'est un deuil. Ah bon, d'accord, c'est un deuil. Bon, alors, donc, l'idée a beaucoup changé, hein. Le concept a beaucoup changé. Mais alors, on vous dit ça, OK. Donc, vous devez vous engager avec moi dans une parole qui va durer je ne sais combien de temps. Pourquoi pas ? OK, mais tout d'un coup, arrivent des substances qui disent, vous êtes déprimé ? Eh bien, écoutez, prenez des comprimés et vous allez voir, en 15 jours, vous n'êtes plus déprimé. La personne prend les comprimés. Tout d'un coup, la chose bascule. Dis-moi, je veux bien qu'on discute sur ce qui me manque, etc. Mais moi, je ne suis plus déprimé. Pourquoi est-ce que je viendrais discuter ? Et si, à un moment donné, c'est technique contre technique, jusqu'à présent, c'est technique contre technique, mais si, à un moment donné, on vous dit, oui, mais là, nous avons établi que la dépression provient de la recapture de la sérotonine. Nous l'avons démontré. C'est très difficile à démontrer. Je pense qu'on est très loin d'une telle démonstration, hein. Mais ce serait ça, un être stabilisé. Tout d'un coup, toute la construction technique des psychothérapies devient caduque. Alors ça s'est passé au moins une fois dans ma profession. Et je vous parlais de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, dont un des symptômes est justement une dépression. Alors moi, je prenais en charge une femme d'un certain âge, j'avais plus de 60 ans, 65 ans, je crois, et qui était manifestement dans ses symptômes déprimée. Alors je commence à faire de la psychothérapie avec elle. Et puis, on fait aussi des examens biologiques et on vient, on me dit, attends, tu prends en charge quoi ? Une maladie de Creutzfeldt-Jakob, c'est un virus à développement lent qui s'est introduit à l'intérieur de son organisme il y a 20 ans. Alors là, il y avait un être stabilisé, qui est le prion, hein, en fait. Hein. Et cet être-là rendait totalement caduque toute ma construction psychothérapique. Ça va ? Vous m'avez suivi, là ? C'est de ça que je parle. Ça, c'est la modernité de ces dispositifs, hein. Je vous parle de ces dispositifs dans le monde moderne, dans le monde où nous vivons, où les choses s'échangent, se discutent, entrent en contradiction et circulent aussi sur le plan international, hein. C'est l'existence réelle de ces êtres. C'est de ça que je parle.
Vous nous parliez de la psychothérapie comme l'étude et l'analyse de l'âme. Et est-ce que ce n'est pas paradoxal de considérer que l'âme puisse être étudiée comme un genre de boîte à instruments où on rangerait les personnes dans des catégories, puisque vous parlez de théories dans lesquelles on peut classer les différentes personnes. Donc moi, ça me surprend un petit peu. Ça me paraît presque paradoxal, en fait, dans cette étude de l'âme, en fait, et de...
Je suis un peu désemparé par votre question, hein, pardonnez-moi.
Non, parce qu'en fait, j'ai du mal à saisir qu'on puisse étudier l'âme de manière si académique, en fait, puisque vous parliez de théorie et de nécessité de mettre en œuvre des écoles et des... Donc, en fait, j'ai l'impression que que l'âme, par nature, a du mal, enfin, quelque chose d'assez indéfinissable, et donc ça me paraît Ça me paraît un peu paradoxal.
Oui, mais enfin, je veux dire, si vous êtes injuste avec moi, j'ai surtout pas dit que la psychothérapie était l'étude de l'âme. J'ai dit que lorsque elles construisent leur théorie, quand les psychothérapies construisent leur théorie, elles, à la différence, par exemple, des chimiothérapies, ou qui elles construisent des objets. Des objets qui sont les molécules. Les molécules, vous ne les voyez pas dans le monde, hein, les molécules. Donc on va les chercher, on les construit par analyse dans un laboratoire, etc. Ça, c'est ce que font les chimiothérapies. Mais les thérapies traditionnelles que je mentionnais, par exemple, les thérapies musulmanes centrées sur les djinns, elles travaillent plutôt comme les chimiothérapies, c'est-à-dire qu'elles construisent des êtres qui n'existent pas dans le monde. Vous ne les voyez pas, les djinns, sauf si vous êtes givré, hein. Mais vous ne les voyez pas. Normalement, on ne les voit pas. Il y en a sûrement plein dans la pièce. Normalement, les musulmans disent que... Moi, je suis assez d'accord avec eux, que si on voyait les djinns, on n'arriverait pas à marcher tellement il y en a plein partout. On aurait peur de les écraser, donc on n'arriverait pas à mettre un pied devant l'autre. Mais heureusement, on ne les voit pas. Donc, il faut la conception, la théorie, pour qu'ils apparaissent, ces êtres. Hein. D'accord ? Donc, je vous ai parlé de deux types de thérapies. Les chimiothérapies, d'une part, qui construisent des objets qui n'existaient pas avant que ces thérapies soient là, les molécules, les médicaments. Une autre thérapie, pourtant très traditionnelle, comme celle des djinns, qui construisent des êtres qu'on ne voit pas naturellement, qui sont les djinns. Et les chimiothérapies, la psychothérapie, justement, prétend que les objets qu'elles construisent ne sont pas des objets palpables, ils sont impalpables. Elles ne les convoquent pas, elles ne les soumettent pas au regard. Elle ne leur permet pas de répondre. Voici ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit du tout qu'on pouvait étudier l'âme de quiconque. Je ne sais pas du tout en quoi pourrait consister l'âme. J'aimerais bien savoir, d'ailleurs, moi j'en ai au moins trois, à partir de mes propres conceptions, du pays d'où je viens et de la pensée dans laquelle j'ai été... nourri, enfant, dans cette pensée-là, il y a trois âmes. Alors quand on me dit que j'en ai qu'une, moi je suis désemparé, parce que moi je sais que j'en ai trois, par exemple. Donc l'âme, je sais très bien que ça ne peut pas être l'âme. Pourtant, psychothérapie, si vous prenez les mots, c'est psouché en grec, et psouché, ça veut dire l'âme en grec. Or, c'est ce mot-là qu'on a conservé. On l'a conservé à bon escient, à mon avis. Parce que chimiothérapie, elle n'a pas conservé le mot âme, hein. Elle a parlé de médicaments, parce qu'ils savent très bien, ils ont convoqué des êtres. Les djinns, ils ne parlent pas de l'âme du tout. Hein. Quand vous dites, vous êtes malade, par exemple, et que c'est parce qu'un djinn vous a attaqué, ou vous a épousé, ou vous a giflé, ou vous a monté, ou s'est introduit à l'intérieur de vous, ou vous a griffé, ou vous a habité comme si vous étiez juste un vêtement, et qu'il vous a enfilé comme si vous étiez un vêtement, il ne vous parle pas de votre âme, hein. Il vous parle de l'action de cet être que vous, malade, vous ne pouvez pas connaître justement parce que vous n'êtes pas un professionnel. C'est ça que dit la thérapie des djinns. Elle ne parle pas de l'âme. Il n'y a que les psychothérapies qui continuent à parler de l'âme et à ne pas convoquer des objets techniques. Pourtant, les psychothérapies sont des techniques. C'est ça que j'ai dit. Ça va ? Donc, ça va, vous m'avez suivi ou pas ? C'est donc un peu plus compliqué que ce que vous dites. Alors, pour résumer... Je ne crois pas du tout qu'on peut classer l'âme des gens. Je ne crois pas du tout que la psychologie ou la psychothérapie soit une étude de l'âme. Au contraire, je m'inscris en faux, comme vous, contre cette idée. Je crois que les choses sont beaucoup plus compliquées et que les psychothérapies sont avant tout des techniques et des dispositifs. Et ces techniques et ces dispositifs produisent un certain nombre d'effets, non seulement sur les personnes, mais aussi... dans le monde social où elle se développe, et ces effets ne sont pas des effets anodins, qui ont des conséquences à moyen terme et à long terme, et que pour juger les psychothérapies, il faut regarder l'ensemble de tous ces dispositifs avant de pouvoir porter un véritable jugement sur elles. Voilà ce que j'ai dit. Ça va ?
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez dit, je ne crois en aucune psychothérapie.
Aucune théorie.
Aucune théorie psychothérapie.
Non, je crois beaucoup que les psychothérapies sont efficaces. Hein, c'est pas ça que je dis. Hein.
Et pourtant, vous avez une pratique.
Bien sûr.
Et donc, notamment au centre d'Evreux. Et je voulais savoir donc à quel point vous n'étiez pas vous aussi pris dans des jeux de pouvoir et que votre et qu'en fait, voilà.
J'en suis surtout victime, moi. Non, je plaisante. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bien entendu que oui. Bien entendu que oui. Parce que je vais vous dire, le noyau même du pouvoir, c'est ce genre de choses. Pourquoi? Parce que si vous faites de la thérapie, en fait, vous agissez sur la nature, quelle que soit la thérapie. Hein, c'est-à-dire, c'est s'inscrire en faux contre l'ordre du monde. Décider que vous êtes une sorte de démiurge qui a la capacité d'inverser les événements naturels. C'est cette position-là que vous prenez quand vous êtes thérapeute. Alors, évidemment, aucun thérapeute n'est assez cinglé pour le penser réellement, ça. Mais au fond, si on analyse véritablement le substrat de toute action thérapeutique, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une formation à la thérapie, qu'elle soit médicale ou psychologique ou simplement dans ces écoles de psychothérapie, c'est on vous donne de quoi affronter cette position incroyable qui est quelqu'un qui s'autorise à inverser l'ordre naturel du monde. Alors on vous arme pour occuper une position pareille. Alors nécessairement, vous êtes pris dans des jeux de pouvoir, vous imaginez bien. Alors, maintenant, revenons au début de votre question. Vous dites que je ne crois à aucune psychothérapie. Attention, j'ai dit je ne crois à aucune des théories qu'affichent les psychothérapies. Par exemple, je ne crois pas que c'est le refoulement qui produit les symptômes névrotiques. Je ne crois pas ça du tout. En revanche, je crois tout à fait que si vous mettez quelqu'un sur un divan et que vous vous mettez derrière et que vous lui dites, vous lui dites « parlez », il va se passer des trucs. Il va se passer des trucs et même plein de trucs. Et ça, c'est de la pratique. Et la pratique, je ne suis pas du tout certain que quiconque qui la pratique est susceptible de décrire les raisons de l'efficacité de cette pratique. C'est ça que j'ai dit, hein. Vous ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
C'est que faire, par exemple, pour soulager des déprimés, des gens qui ont une propension au suicide? Il faut bien que faire quelque chose, même si on a un doute, si on ne veut pas être dans leur pouvoir, si on ne veut pas, comment dirais-je, être très longtemps en analyse. Il y a tout de même des soins urgents à donner. Et on ne peut pas se contenter de théorie, quoi. Qu'elle soit douteuse ou pas. Il y a quelque chose à faire.
Certainement.
Et si malgré tout, l'industrie pharmaceutique... s'enrichit de nouveaux psychotropes, c'est qu'il y a eu des essais cliniques qui ont donné des résultats. Hein, des
c'est
essais,
pas tout êtes, à fait comme
pas
ça.
Pas tout à fait, mais en principe, un médicament,
oui,
il faut 5 à 10 ans pour parvenir au public. Oui. Alors, en conclusion, que faire?
Bon, ce que vous dites, je ne peux qu'acquiescer à ce que vous dites, hein, bien entendu. Ce que je présentais, ce sont les problèmes, hein. Bien sûr qu'il n'y a pas que des problèmes, il y a tout de même des gens qui bossent et qui ont une certaine efficacité. D'autre part, on sait à peu près que les psychothérapies sont assez efficaces, pas très efficaces, mais assez efficaces. Pas toutes, pas toujours, etc. Mais on sait, mais on a beaucoup de mal à mesurer exactement. Les études de plus en plus précises qu'on fait, surtout pas en France, hein, où la France, enfin, il y a très peu de laboratoires en France où on accepte de tester, d'évaluer les psychothérapies. Alors, mais ailleurs, au Canada, surtout aux États-Unis, on a fait beaucoup ça. Bon, mais ces évaluations aussi sont très discutables. Hein, je veux dire, c'est pas, moi, je défends pas du tout comme ça. Je suis pas un passionné de l'évaluation. C'est pas ça. C'est que je note simplement qu'en France, on a du mal à rentrer dans ces mécanismes d'évaluation. Bon, et qu'on a du mal à rentrer dans les mécanismes du débat contradictoire. C'est ça que je propose. C'est-à-dire des contre-pouvoirs. Que les psychothérapies existent, c'est une bonne chose. Qu'elles soient souvent efficaces, souvent, parfois dangereuses aussi, souvent aussi. Tout ça, c'est vrai. Maintenant, comment est-ce qu'on peut le savoir si on n'institue pas des instances capables de faire naître un débat contradictoire? Et ces instances ne peuvent pas venir des professionnels, parce que les professionnels défendront toujours leur caste professionnelle. Ils ne peuvent venir que des usagers. Mais un usager tout seul ne peut pas mais remettre en cause un discours des savants, le discours des savants. Il ne peut pas. Il faut que ce soit un groupe d'usagers. Ces groupes d'usagers qui commencent à exister, C'est de ça que j'ai parlé. Hein. Ces groupes d'usagers devraient être les partenaires dans la discussion et certainement pas les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics ne sont pas capables de juger les psychothérapies parce qu'ils vont demander à qui ? À des experts qui eux-mêmes sont des thérapeutes, qui vont défendre leur boutique, ça va de soi. Il faut qu'ils aient d'autres interlocuteurs. Quand les pouvoirs publics veulent juger si une entreprise se comporte de manière correcte avec ses employés, elle ne va pas demander à l'entreprise. Elle va demander aux employés et aux représentants des employés. Oui, ça me paraît naturel. Eh bien, c'est pareil. Si on veut savoir, si on veut entrer dans un débat contradictoire au sujet des psychothérapies, puisque là, ça devient urgent, c'est l'actualité, hein. C'est discuté à l'Assemblée. On se demande, est-ce qu'on va faire un statut de psychothérapeute ? Quelle sera la nature de ce statut de psychothérapeute ? Qui entrera, qui n'entrera pas ? Quelles seront les écoles dont l'enseignement sera autorisé à introduire à ce statut de psychothérapeute ? On est en train de discuter de ça en ce moment. Les pouvoirs publics continuent à discuter avec les experts. C'est pas possible de discuter de ça avec les experts. Il faut discuter de ça avec les usagers et trouver les moyens de donner la parole aux usagers. Et mon côté un peu sarcastique dans ce débat, dans cet énoncé que je vous ai fait ce soir, provient du fait que les psychothérapies n'arrêtent pas de dire qu'elles écoutent. Or, on n'arrive pas à faire ressortir la parole des usagers sur la psychothérapie. Elles écoutent quoi si elles n'ont pas d'interlocuteur qui peut venir leur dire « Vous êtes efficace dans 30%, dans 50%, c'est plutôt 30, hein. » dans 80% peut-être, je ne sais pas, et parce que ceci, parce que cela, elles n'ont pas d'interlocuteur. Et c'est de ça, c'est là-dessus c'est là-dessus que j'ai exercé un petit peu mon ironie. Je vous prie de m'en excuser, cette ironie était peut-être déplacée, mais c'est ça que je voulais dire. Hein. Je ne veux pas dire du tout que de ce fait-là, il ne faut pas intervenir. Au contraire, c'est pour affiner nos instruments. Ça va, on est d'accord.
Pour tout vous avouer, je suis et psychologue et psychothérapeute.
Je vous félicite.
Mais quand même, j'ai malheureusement pas tout compris sur vos idées sur la psychothérapie à la faculté, enfin à l'université. Est-ce que vous pourriez redire un peu comment vous voyez les choses et comment se place la psychothérapie quand même, qui est là un travail personnel qui me paraît pas possible que ce soit en chaire, si vous voulez.
Bien entendu. Ouais. Bien
mais je n'ai pas tout compris, donc si vous pouvez.
Alors, bon, c'est évidemment un problème délicat. Je vous remercie d'introduire cette question que j'ai évidemment traitée en deux paragraphes de manière tout à fait légitime, vous venez me chercher là. Je ne suis pas sûr que tout le monde partage notre débat, malheureusement, puisque je ne suis pas sûr qu'il n'y ait que des professionnels dans la salle. Je voulais vous dire que l'université a un avantage. Vous savez ce que c'est l'avantage de l'université, c'est que les professeurs partent à la retraite. Ça, c'est un avantage considérable. Les thérapeutes ne partent pas à la retraite, hein, vous savez ça. Hein. Ils ont 80 ans, 90 ans, ils continuent à recevoir les patients. Hein. Mais oui. Pardon ? Oui, ils finissent par mourir, bien entendu. Peut-être pas. Vivent très longtemps, les thérapeutes. Hein. On a quelques exemples, ils vivent très, très longtemps. Bon, enfin, sans doute qu'ils finissent par mourir, tout de même, oui. Alors, les professeurs à l'université partent à la retraite. Hein, et vous avez une chaire, vous avez un enseignement. Cet enseignement, évidemment, est impulsé par le professeur qui lui donne une certaine impulsion, puis s'en va à la retraite. Hein. Et en général, la personne, c'est presque une coutume à l'université, la personne que le professeur désigne mettre à sa place comme successeur, en général, il n'est pas accepté par les collègues. Ça se passe toujours comme ça, pour mille raisons, à chaque fois des raisons différentes, mais ça ne se passe jamais. Il n'y a pas de filiation possible à l'université. Ce qui fait qu'arrive quelqu'un d'autre qui dit « Ah, mais moi, je ne pense pas du tout comme ça », et il réorganise le système. Et ça, c'est le poumon nécessaire. C'est-à-dire que une théorie extrêmement rigide, construite, ne peut pas durer plus de 20 ans à l'université. Et donc, il y a un renouvellement obligatoire en 20 ans. 20 ans, c'est déjà beaucoup, hein, je suis d'accord avec vous. Hein. 20 ans, c'est déjà trop. Mais c'est déjà beaucoup mieux que ce qui se passe dans les systèmes thérapeutiques. Et leur difficulté à se modifier et à s'adapter aux changements sociaux, si vous voulez. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Hein. On dit, J'ai une formation psychanalytique, je continue à pratiquer la psychanalyse. Alors si je manifeste mon ironie, c'est parce que c'est par sympathie, en fait. Sympathie signifiant souffrir avec. Je souffre avec la psychanalyse. C'est-à-dire, quand je la fais souffrir, je souffre avec, puisque je manifeste ma sympathie à son égard. Mais tout de même, il y a quelques événements qui ont été assez alarmants pour ce qui concerne la psychanalyse. Par exemple, on a dit... la psychanalyse, ça fait partie des doctrines de la psychanalyse. On a dit les bébés sont des psychotiques, en fait. Les bébés, c'est dans Freud, hein, et ensuite tout le monde dit ça. Hein. Les bébés sont des psychotiques, c'est-à-dire que ils voient pas, ce qu'ils voient, ils n'ont aucune représentation de ce qu'ils voient, donc ils le voient pas. Ils n'arrivent pas à investir. Ils mettent très très longtemps. Et d'ailleurs, chez Freud, Freud dit même qu'il faut 5 ans. Pour que le bébé sorte de sa psychose originale. Et c'est ça que signifie le complexe d'Édipe, hein, en fait. Hein. C'est la sortie de la psychose originaire, si vous voulez. C'est ce que disent les psychanalystes. Très bien. Et puis, manque de chance, on a inventé la vidéo. Et puis, parce qu'il y avait le cinéma, bien sûr, mais on ne pouvait pas filmer des bébés 24 heures sur 24. On a inventé la vidéo, et puis, c'est surtout Sony, vous savez. Sony... Parce que Sony, oui, parce que la vidéo Sony, il n'y a pas les sauts, vous savez, les sauts des images, là, quand on regarde au ralenti. Alors que toutes les autres vidéos, il y a les sauts, alors ça casse les pieds, on ne regarde pas, en fait. Mais depuis qu'il y a Sony qui permet de passer au ralenti les images des bébés, et sans qu'il y ait les sauts entre les images, tout d'un coup, il y a des caméras qui ont été fixées sur des bébés 24 heures d'affilée, et on a regardé les réactions des bébés à des événements de la vie. Eh bien, ils ne sont pas psychotiques dès le premier instant. Ils voient leur mère, ils la reconnaissent la première heure. Normalement, la psychanalyse dit, bon, écoute, on révise notre théorie, c'était faux. Ils ne peuvent pas faire ça. Pourquoi ? Parce qu'ils sont une association professionnelle. Et que une association professionnelle. S'ils font ça, ils disqualifient la profession. Ils pensent qu'ils disqualifient la profession. Et ça, je vais vous dire, c'est très, très délicat pour les mutations d'une pensée. Parce qu'une profession tient, si on pense qu'une profession tient autour de concepts, alors à ce moment-là, cette profession, elle ne bougera pas et elle ne pourra pas considérer les innovations obligatoires. Je peux vous donner un autre exemple. La psychanalyse a dit, dès le début, parce que Freud, c'était le dernier bouquin qu'il avait lu, sauf que ce bouquin, déjà, Freud lisait des bouquins qui étaient édités 10 ans auparavant, 15 ans auparavant, et comme lui, déjà, c'est vieux, vous vous rendez compte, les bouquins, la date qu'ils ont. Il dit, par exemple, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que c'est que le complexe d'Édipe, par exemple, pour prendre cet exemple-là, le complexe d'Édipe, c'est la façon dont les hommes sortent de la sauvagerie des singes qui, sous-entendu, n'ont qu'une chose dans la tête, c'est coucher avec leur fille, avec leur père, avec leur mère, tous ensemble, etc. Bon, les singes. Bon, très bien. Entre-temps, il y a des gens qui ont dit, les singes, c'est intéressant, ils sont allés les regarder. Et, ils sont allés les regarder très près, les babouins, les amadrias, les macaques, etc. Puis ils sont revenus en disant, vous savez, on peut regarder autant qu'on veut, on ne voit jamais une fille, babouin, coucher avec son père. Ça n'existe pas du tout. Chez les hommes, ça existe un peu. Chez les babouins, ça n'existe pas du tout. Alors normalement, les psychanalystes disent, bon, écoutez, on s'est gouré, on revoit la copie. Eh bien non, ils ne peuvent pas. Pourquoi ils ne peuvent pas? Eh bien voilà, c'est de ça que je parle. À l'université, on peut, on est fait pour ça. D'accord? C'est ça que je veux dire. Alors comment je vois les choses? Je ne les vois pas, je vais vous dire tout de suite. Alors comment je vois les choses? Je vois les choses, d'abord, pratiquer ce qu'on pratique en général à l'université quand on enseigne, c'est-à-dire la multitude des théories, le débat contradictoire, la possibilité d'introduire des nouvelles théories. Bien sûr, on sait bien que les profs ont leur lubie et qu'ils introduisent toujours les mêmes théories, etc. Mais justement, ils partent à la retraite, il y en a un autre qui vient, il introduit d'autres choses, etc. Pour le travail personnel, pour moi, si on faisait un jour un diplôme de psychothérapie, ça ne donne pas un demi-point de plus à l'examen terminal. Pas même un demi-point de plus. Ça n'a rien à voir avec la formation. Absolue. Si vous ne faites pas ça, alors vous engendrerez nécessairement ces endroits où vous dépendez de votre enseignant comme pour votre carrière et pour votre vie personnelle. Ces systèmes-là, ça a un nom. Ça s'appelle le totalitarisme. Lorsqu'on dépend de la même personne et pour son affectivité et pour sa carrière, ça s'appelle le totalitarisme. L'université est réfractaire à ce type de système. Donc, vous avez une formation personnelle, vous avez un travail personnel ou pas, ça ne regarde pas l'enseignement et ça ne vous donnera pas un demi-point de plus à l'examen terminal. C'est ça. Mais ça n'existe pas, hein, de toute façon, puisqu'on parle, on rêve.
Bien, je vous remercie. Et je remercie
l'univers. Merci beaucoup.
Voilà.